Nous avons vu les missions réalisées par des équipages, mais il y a aussi une quantité de sondes qui ont été lancées dans l'espace.
Oui, toutes les nations spatiales ont lancé des sondes interplanétaires après 2000. Voyons tout d'abord les sondes américaines. Et on va commencer par Mars. Spirit et Opportunity. Ces deux sondes jumelles ont la même mission, parcourir 600 mètres en 90 jours solaires martiens, soit 92 jours terrestres, à la surface de Mars. La NASA pensant que les rovers ne résisteraient pas au premier hiver martien. Elles sont lancées en janvier 2003, Spirit le 3 et Opportunity le 24. Elles se posent sur Mars, la première le 10 juin, la seconde le 7 juillet. Particularité de l'atterrissage, après une descente sous parachute, l'arrivée au sol se fait dans des airbags qui vont rebondir sur le sol martien. Puis se dégonfler les uns après les autres pour amener la plateforme qui supporte le rover à l'horizontale. Et les panneaux protecteurs s'ouvrent comme les pétales d'une fleur pour libérer le rover. Spirit se pose dans un cratère et le rover parcourt 7,7 km jusqu'en mars 2010. Là, bloqué par du sable, il s'arrêtera définitivement, mais n'ayant plus que rempli son contrat. Opportunity, posé dans une plaine, verra sa mission étendue une première fois à 13 mois, et 14 ans plus tard, début juin 2018, le petit rover fonctionnait toujours après 5111 jours solaires martiens. Je rappelle, l'objectif c'était 90. Ce qui correspond à 5225 jours terrestres, avait parcouru plus de 45 km sur le sol de la planète rouge et pris 217 594 images. Mais le 12 juin 2018, la NASA signalait qu'une gigantesque tempête de sable à la surface de Mars, dans une zone proche d'Opportunity, risquait d'empêcher le soleil d'alimenter les panneaux solaires qui fournissent l'énergie du rover, en diminuant leur ensoleillement et en les recouvrant de poussière. Et la tempête ayant déposé une trop grande quantité de poussière sur ces panneaux solaires, les seules batteries au lithium du rover n'ont pas fourni assez d'énergie pour maintenir ses fonctions opérationnelles dans le froid glacial de la nuit martienne. Aussi, mi-février 2019, après 6 mois d'efforts et 800 tentatives pour le réanimer, la NASA a décrété que le rover était perdu. C'est une mort honorable, a décrété Steven Squier, le responsable scientifique de cette mission. Autre mission, MRO, Mars Reconnaissance Orbiter. La sonde américaine de 2 tonnes et 1,5 milliard de dollars est lancée en août 2005 par une fusée Atlas et elle arrive en orbite martienne en mars 2006. En avril 2007, elle avait effectué 50 000 orbites autour de Mars, cartographiant sa surface. Sa caméra de 30 cm de résolution a photographié le rover Opportunity qui poursuivait ses analyses sur les bords du cratère Victoria. Les analyses faites par MRO ont contredit une publication faite par la NASA en début 2015. Il n'y a pas eu d'écoulement d'eau salée à la surface de Mars. Les éboulis-vues seraient dus à des écoulements de sable sec. Et pas d'eau, pas de vie telle que nous la connaissons et la recherchons. Mais de la glace d'eau est bien présente sur Mars. MRO en a trouvé à moins de 2 mètres sous la surface. MRO est en prolongation de mission depuis 2008 et la NASA espère bien le faire fonctionner jusqu'en 2020, donc jusqu'à la fin de cette année, car il sert aussi de relais aux données envoyées par le rover Curiosity, de même que les deux autres sondes en orbite autour de Mars. Mars Odyssey, arrivé en janvier 2002, et MAVEN, arrivé en septembre 2014. Autre rover qui a une très très belle histoire, Curiosity. Il est arrivé sur Mars le 6 août 2012 pour une mission prévue d'une année martienne, soit à 667 sols les jours martiens. Et ce rover de 900 kg continue 8 ans après à arpenter le sol martien et à envoyer des photos à la Terre. Le 8 juin 2018, le journal italien Il Tirreno relayait une annonce de la NASA publiée la veille par le JPL. Le JPL, c'est le Jet Propulsion Laboratory à Pasadena, en Californie, qui suit toutes les missions des sondes spatiales américaines. Cette revue, publiée dans Science, faisait état de la découverte par Curiosity de molécules organiques dans des coulées de boue datant de 3 milliards d'années. C'est la confirmation de mesures faites en 2014. Autre confirmation, le méthane varie de manière cyclique dans l'atmosphère de Mars, avec un pic trois fois plus important durant l'été martien. Ceci pourrait être la preuve d'une vie, car pour les exobiologistes, le béthane peut provenir de la décomposition de matière organique par le rayonnement ultraviolet. Reste à trouver si ce méthane vient du sous-sol de Mars et provient de nappes stockées par le passé, ou bien s'il est produit de nos jours par des bactéries vivant dans des roches sédimentaires du sous-sol martien. Mais ces traces de méthane, trouvées par Curiosity et la sonde Mars Express, n'ont pas été confirmées plus tard par la sonde russo-européenne ExoMars Trace Gas Orbiter. L'analyse de roches vieilles de 4 milliards d'années, chauffées dans le four à 600 degrés de Curiosity, a révélé du thiophène, qui pourrait être le résultat de la combustion de molécules organiques complexes. Le 15 mars 2019, Curiosity a envoyé une photo de ces surroues en aluminium, montrant qu'elles sont très abîmées après les kilomètres parcourus sur le sol martien. Car à fin 2019, il avait parcouru en 2580 sols, ce qui correspond à 2640 jours terrestres, plus de 20 kilomètres, et analysé de 20 échantillons de roches à l'aide de sa foreuse. Cette foreuse était bloquée depuis fin 2016, mais les techniciens de la NASA, ayant réussi l'exploit d'imaginer et de mettre en œuvre une procédure de dépannage, elle est de nouveau utilisable depuis février 2018, où elle a foré un trou de 1,3 cm de profondeur dans la région du lac Orcadie. Elle utilise aussi une caméra chimique couplée à un laser qui a effectué plus de 500 000 analyses de la composition des roches visées par le laser. Autre sonde, Mars Insight. À l'inverse de ses prédécesseurs mobiles, la sonde américaine de 600 kg, Insight, a décollé le 5 mars 2018, emportée par une fusée Ariane 5, et étudie à poste fixe Mars. Elle s'est posée le 26 novembre 2018, après 7 mois et 7 minutes d'une traversée de l'atmosphère martienne, commencée à près de 20 000 km/h. Pour détendre l'atmosphère pendant cette phase critique de la descente, les 7 minutes de terreur, les techniciens du JPL ont pris l'habitude de grignoter des cacahuètes, par fétichisme sûrement, car cela leur avait porté chance depuis Ranger 7. Donc 7 minutes après le poser, elle émettait un bip de confirmation de la réussite de son atterrissage, ainsi que sa première photo. Il faut dire qu'après un premier échec russe avec le crash de la sonde soviétique Mars 2 en 1971, c'est le 8e succès d'atterrissage sur Mars du JPL sur 15 tentatives. Le premier succès étant Viking 1, posé en 1976. Insight est venu se poser près de Spirit et d'Opportunity. Au 10e jour de son arrivée, Insight a envoyé un selfie pris par une caméra installée au bout de son bras télescopique. Puis le bras télescopique a délicatement posé plusieurs instruments. Le sismographe SAIS, le 19 décembre, à 1,60 m de la sonde, opération qui a pris 45 minutes. Après avoir reçu son dôme de protection thermique et acoustique, pour le protéger des énormes variations de température sur Mars, de moins 85 à plus 10 degrés, il a été testé avec succès le 1er janvier 2019 et a commencé le 2 février ses mesures. Le 11 février, la sonde américaine MRO, qui est en orbite autour de Mars, l'a photographié à la surface de Mars et il a pris en photo Insight avec SES déployé. Ce sismographe, SES, a été fabriqué en France avec des composants français, anglais, suisse et allemand et il étudie la composition du sol martien sur le plan géologique. Il peut enregistrer les impacts de météorites s'écrasant sur Mars ainsi que les déformations dues aux effets de marée de la plus grosse lune de Mars, Phobos. Sa précision, absolument fantastique, permettant de mesurer toute déformation de l'ordre de 250 millièmes de milliardième de mètre, soit le quart du diamètre d'un atome d'hydrogène. Son concepteur, Philippe Lognonnet, géophysicien à l'Institut de physique de Paris, avait proposé son projet à 16 reprises aux différentes agences spatiales. Il sera finalement choisi en 2012 pour la mission Discovery 12, baptisée depuis Insight. Le sismomètre SAIT a transmis le 6 avril 2019 le premier enregistrement d'un séisme venu de l'intérieur de Mars, d'une magnitude entre 2 et 3. dû au refroidissement interne de la planète. Puis, le 12 février, le bras mécanique a déposé la sonde mécanique, la top mécanique HP3. HP3, ça veut dire Haze Flow and Physical Property Package. Stop de fabrication allemande. Elle devrait fourrer jusqu'à 5 mètres de profondeur en 40 jours et déposer au fond des capteurs de température pour étudier tous les 50 cm les flux de chaleur émis par le sous-sol de la planète rouge et mesurer ainsi les vitesses de refroidissement. Mais lors de la première tentative, le 28 février, la foreuse a rencontré une zone très dure, la faisant dévier de 15 degrés, puis sortir à moitié du trou déjà foré. Le forage a été arrêté, mais une solution a été trouvée et le forage a repris en octobre 2019. Il faut souligner quand même que tous ces engins planétaires qui sont à quelques centaines de millions de kilomètres de la Terre peuvent être dépannés informatiquement par des techniciens qui sont à terre et qui imaginent des solutions, car il y a toujours un module identique à terre pour qu'il reproduise ce qui se passe sur les sondes, sur les sols martiens ou Vénus ou sur la Lune. La station météo située sur l'atterrisseur fait des mesures de température, de pression à 10 millionièmes de pascal près et de la vitesse de vent. Le premier enregistrement du bruit du vent martien a été effectué en janvier 2019 et d'autres mesures sont faites depuis mars 2019. Enfin, le système de communication de la sonde, RISE, outre son rôle dans les échanges radio, étudie la rotation de Mars sur elle-même. Encore une sonde, mars 2020. Équipé de 23 capteurs, le prochain rover martien, d'un coût estimé à 2,4 milliards de dollars, devrait être sur Mars en juillet 2020 et se poser dans un cratère d'impact de 50 km de diamètre, J0. Il y déposera un astromobile d'une tonne et étudiera pendant 2 ans le sol martien en collectant des échantillons d'air et de roches. Ces échantillons seront stockés en attendant de récupérer et ramenés sur Terre par une future mission vers 2026. Il emporte un microphone ultra-sensible et une caméra Supercam développée par le CNES, donc en France, qui, associée à un laser qui ira chauffer les roches à 8000 degrés, analysera la lumière produite. Et un spectromètre analysera les vapeurs produites par la chaleur des tirs laser. Le bruit de l'impact du laser permettra de distinguer les différents types de roches. Il embarque aussi, c'est une nouveauté, un drone hélicoptère équipé de 2 rotors contrarotatifs afin de tester l'intérêt d'utiliser ce type d'engin sur Mars. D'une masse de 1,8 kg, ce petit hélicoptère de la taille d'une balle de tennis sera alimenté par des cellules solaires. Il fera des vols de 90 secondes et transmettra ses images à la Terre par l'intermédiaire de la plateforme Mars 2020. Son but est de tester la possibilité de voler en faible gravité dans l'atmosphère martienne. Des drones pourraient alors servir d'éclaireurs aux rovers, puis plus tard aux explorateurs de Mars. Et enfin, Puffer. La NASA développe un mini-rover, Puffer, constitué essentiellement d'un circuit électronique sur lequel sont installés divers instruments d'étude de l'environnement martien.
Mars a reçu et reçoit de nombreuses visites, mais je suppose que ce n'est pas la seule planète vers laquelle on a envoyé des sondes.
Non, bien sûr. Tout le système solaire est exploré. Après Mars, voilà Jupiter avec la sonde Juno. Lancée en août 2011 vers Jupiter, cette sonde de 3,6 tonnes s'est mise en orbite autour de Jupiter le 4 juillet 2016 et a envoyé une première image après avoir parcouru 2,8 milliards de kilomètres à la vitesse de 265 000 km/h. Elle a survolé Jupiter le 27 août 2016 à 4100 km d'altitude, observant d'immenses aurores boréales. Elle a étudié de près la Grande Tache Rouge, gigantesque tourbillon de 1 fois 3 le diamètre de la Terre, où les vents soufflent à 700 km/h, tourbillon d'une hauteur de 300 km. Mais en comparant avec plusieurs images anciennes, plus anciennes, cette tempête serait en voie de se résorber. La sonde orbite en 14 jours, entre 5 000 et 3 millions de kilomètres, pour éviter les très dangereuses radiations qui entourent Jupiter. Voyons maintenant ce qui est parti vers Mercure. Lancée en 2004, la sonde Messenger a atteint Mercure en 2011, où elle a pris 60 000 photos de la surface, analysé son champ magnétique et fait des analyses de la composition du sol avec son spectromètre à rayons X. Avant d'y être précipité en avril 2015, son carburant étant épuisé. Puis, la dernière ex-planète, puisque cette planète a été rebaptisée, Pluton. La sonde New Horizon, lancée en 2006 et placée en hibernation la plupart du temps, a survolé Pluton le 14 juillet 2015, où elle est passée à seulement 13 000 km de la surface. La NASA a réalisé un film à partir des images prises par cette sonde. La sonde ne s'est pas posée, elle a juste fait un passage à côté. Avec ces images de Pluton, National Geographic a réalisé une carte de Pluton avec les noms donnés par l'Union internationale astronautique. Après Pluton, la sonde a survolé Charon et poursuivi sa route à la vitesse d'1,2 million de kilomètres par jour vers l'astéroïde 2014 MU69 de la ceinture de Kuiper, Ultima Thule. Le 5 décembre 2017, elle a envoyé les photos les plus éloignées jamais prises à cette date, un amas d'étoiles et deux astéroïdes. Le survol d'Ultima Thule, réalisé le 1er janvier 2009, est le plus lointain effectué par une sonde, à 6 milliards de kilomètres et demi de la Terre. Ultima Thule fait référence à la ville du nord de la Terre, Thule, entre l'Islande et la Norvège. En passant à 3500 km de distance, à la vitesse de 50 000 km/h, le temps de survol permettant de faire des photos et des mesures de cet objet d'une trentaine de kilomètres de long n'a été que de 2 jours. La sonde est entièrement autonome pour ses actions, car les communications entre la Terre et elle prennent 6 heures. Une première photo a été reçue le 2 janvier 2009 sur Terre, dévoilant un astéroïde sous la forme de 2 boules de neige assemblées de couleur orangée, de 19 et 14 km de diamètre, évoquant une cacahuète ou un bonhomme de neige, de 31 km de long et 16 km de large. La totalité des données collectées par la sonde mettront 2 ans à être rapatriées sur Terre. Brian May, guitariste du groupe Queen et astrophysicien, a composé une chanson pour cet événement. Et un dessinateur humoristique a caricaturé Ultima Thule en Frankenstein. Mais Ultima Thule a changé de nom le 12 décembre 2019 pour s'appeler Arrokoth, ciel en Powhatan, une langue amérindienne. La raison, les nazis avaient fait de Thule le foyer original de la race aryenne. Les sondes, il en est parti aussi vers d'autres, pas planètes, mais planétoïdes, ou des astéroïdes. C'est Dawn, une petite sonde de 1 tonne 3 et de 1,5 milliard de dollars, qui sera la première à aller explorer 2 astéroïdes entre Mars et Jupiter. Partie le 27 septembre 2007, elle se met en orbite autour de Vesta, qui fait 524 km de large. Le 15 juillet 2011, révélant un cœur en fer de 110 km de rayon. Puis, elle remet en marche sa propulsion électrique en septembre 2012 et arrive sur Cérès, 950 km de diamètre, considérée comme une planète naine au même titre que Pluton maintenant. En mars 2015, elle y découvre un énorme volcan de 5 km de hauteur. Les planétologues pensent que Cérès abriterait sous sa croûte une couche de glace de 60 à 120 km d'épaisseur. Dawn, comme Kepler, a terminé sa mission en fin octobre 2018, après avoir épuisé son hydrazine, mais vécu 2 prolongations de mission, dont la fin était initialement prévue en 2016. Dawn est maintenant un satellite de Cérès et finira par s'y écraser dans plusieurs dizaines d'années. Puis des sondes vers Titan, à venir. En 2026, la NASA enverra sur Titan, la plus grosse des lunes de Saturne, une sonde baptisée Dragonfly, libellule, car elle sera capable, une fois posée, de redécoller grâce à ses 4 couples de rotors pour faire des mesures de différents sols de Titan et de sa basse atmosphère. Des sondes ont aussi été envoyées pour explorer des comètes. Kobini-Zinner, Halley, Hartley 2, Borelli, Wine 2, Temple 2, et des astéroïdes. Ida, Gaspra, Eros et Braille.
Les Américains ne sont quand même pas les seuls à aller explorer le système solaire.
Non, les autres nations prennent part aussi à cette aventure. Voyons d'abord les Européens. Mars Express. Première mission de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, à destination de Mars. Mars Express part le 2 juin 2003 de Baïkonour, lancée par une fusée Soyuz Frégate. Elle est composée d'un orbiteur et d'un atterrisseur, Beagle 2, et se met en orbite autour de Mars le 25 décembre 2003. Mais l'orbiteur n'aura plus de contact avec Beagle 2 après dès sa séparation, l'atterrisseur n'ayant pas réussi à déployer ses panneaux solaires, malgré un atterrissage que les spécialistes pensent réussi. L'instrument Marsis, installé sur l'orbiteur, a fait état d'un possible lac souterrain situé à 1,5 km de profondeur, près de la calotte glaciaire martienne. Et la sonde a fait des photos d'un immense lac d'eau gelée, 50 km de diamètre, au milieu d'un désert de roches. Autre mission, Rosetta, dont on a beaucoup plus parlé. Cette mission visait à étudier une comète, 67P, Churyumov-Gerasimenko, dite Churi, c'est beaucoup plus facile, qui passe au plus près du Soleil tous les 7 ans. Le nom de la sonde rend hommage à Champollion, qui a découvert les pierres de Rosette, lui permettant de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens. Les scientifiques espèrent, par l'analyse de la composition des comètes, parvenir à comprendre comment la vie est apparue sur Terre. Lancée le 2 mars 2004, elle a survolé deux astéroïdes, Stein et Lutèce, et s'est mise en hibernation pendant 2 ans pour épargner son énergie. Réveillée en janvier 2014, elle s'est mise en orbite autour de la comète en août et a largué le 12 novembre 2014 un petit atterrisseur nommé Philae sur la comète, qui mettra 7 heures pour rejoindre Churi. Si la partie analyse de la sonde s'est déroulée comme prévu, l'atterrisseur n'a pas pu remplir la totalité de sa mission. En effet, lors de son posé, Philae, ne pesant qu'un gramme sur cette comète, pour 98 kg sur Terre, a rebondi à la surface. Et un des grappins prévus pour l'amarrer au sol n'a pas pu fonctionner. Et Philae s'est retrouvé en l'air avant de venir s'arrêter sous un rocher, après plusieurs rebonds. Posé dans une zone peu éclairée par le soleil, ses batteries n'étant pas rechargées suffisamment, il n'a pas pu faire fonctionner la totalité des expériences prévues, en particulier sa foreuse. Mais le 13 juillet 2015, de nouveau éclairé par le soleil, Philae a repris ses mesures jusqu'au 9 juillet. Rosetta, de son côté, a continué à tourner autour de Churi, faisant une photo d'un jet de matière éjecté par Churi. Le principal enseignement de Rosetta est que l'eau présente sur la Terre ne vient pas des comètes de la ceinture de Jupiter, car les analyses faites ont montré que la composition de la glace trouvée sur Churi est très différente, avec un taux de deutérium 3 fois supérieur à celui que l'on trouve sur Terre. Le 23 avril 2018, un internaute a posté sur son site une animation faite à partir de photos prises par Rosetta. On y voit un balai de particules danser dans la lumière. Vous pouvez trouver cette magnifique scénographie sur https://twitter.com/landru79, status et toute une série de chiffres que je mettrai en référence sur le site. La sonde a collecté dans la queue de la comète 35 000 poussières durant les 2 années passées autour de la comète. L'analyse de 200 d'entre elles, réalisée par la sonde directement, a montré qu'elles étaient composées essentiellement de carbone et que les molécules organiques que l'on s'attendait à y trouver n'y étaient pas. Sur le flanc de Rosetta est accroché un disque en nickel sur lequel était gravé un message en 1 millier de langues. Et le 30 septembre 2016, elle a plongé vers la comète, faisant des photos d'elle jusqu'à une altitude de 51 mètres avant de s'y être crasée. Voyons maintenant les coopérations qui ont eu lieu dans le monde pour aller envoyer des sondes. Coopération entre l'Europe et la Russie, Schiaparelli. Emportée en 2016 par une des sondes russo-européennes du programme ExoMars, coopération entre CNES et Roscosmos, l'agence russe, l'orbiteur TGO, Trace Gas Orbiter, s'est satellisé autour de Mars et a analysé la composition de son atmosphère. Mais son passager, le module européen Schiaparelli, du nom du découvreur des canaux martiens, a raté son atterrissage et s'est écrasé sur le sol martien le 19 octobre 2016. Ces rétrofusées, chargées de réduire sa vitesse de descente, n'ont pas fonctionné assez longtemps, à cause d'une erreur de calcul, du calcul de trajectoire. Violemment chahutés par une tempête pendant la descente, les capteurs de position ont transmis des informations erronées à l'ordinateur, qui, en se croyant au sol, a arrêté les fusées chargées de freiner la descente. Et évidemment, Schiaparelli est arrivé trop vite et s'est écrasé sur le sol. L'année prochaine, en 2021, la suite du programme ExoMars devrait envoyer un nouveau rover porté par une plateforme de descente russe, Kazatchok, le petit Cosaque. Ce petit rover européen, Rosalind Franklin, partira à la recherche des traces de vie sur Mars en faisant des forages jusqu'à 2 mètres de profondeur. Autre coopération, celle-là entre l'Europe et le Japon, BEPI Colombo. Projet commun entre l'ESA et l'agence japonaise européenne, JAXA, qui a envoyé le 20 octobre 2018 une sonde de 4 tonnes, de 6 mètres de haut et de 1,3 milliard d'euros vers Mercure, à 222 millions de kilomètres. Cette sonde était emportée par une Ariane 5 depuis Kourou, qui réalisait là sa première mission planétaire, Kourou étant plutôt sur les orbites terrestres. Après 74 minutes de vol, les immenses panneaux solaires de la sonde sont déployés et elle commence son long périple. Elle repassera à côté de la Terre en 2020 pour, par effet de fronde, récupérer un peu de vitesse, puis se dirigera vers Vénus, deux survols en 2020 et 2021, et Mercure, qu'elle atteindra après avoir parcouru près de 8,5 milliards de kilomètres pour six survols entre 2021 et janvier 2025, avant de s'y satelliser en décembre 2025 pour une mission d'observation initiale de une année à partir d'avril 2026. Elle déposera deux satellites autour de Mercure, MPO élaboré par l'ESA pour l'étude de la surface et la composition de la planète, en particulier la nature de la glace qui se cache au fond des cratères polaires de cette planète dont la surface est brûlante, et MIO, sonde de la JAXA japonaise, qui s'intéressera à son champ magnétique et à la magnétosphère. De plus, les instruments embarqués feront des mesures du déplacement du périphélie de Mercure, point où elle est le plus proche du Soleil, afin de le mesurer avec une précision 10 fois supérieure aux données actuelles, permettant, sûrement, de valider encore mieux la théorie de la relativité générale énoncée par Albert Einstein. Autre acteur à l'exploration du système solaire, la Chine. Mission Chang'e 4, Chang'e est la déesse chinoise de la Lune. Décollage le 7 décembre 2018, arrivé le 3 janvier 2019 sur la face cachée de la Lune, d'un atterrisseur qui a déposé le rover à 6 roues U2 dans le cratère von Karman, dans le bassin d'impact Pôle Sud Aitken. Notez bien que c'était la première fois que l'on posait un engin sur la face cachée de la Lune. Et pour ce faire, cet atterrisseur a été accompagné d'un orbiteur, Kei Qiao, qui a servi de satellite relais. Cet orbiteur a été envoyé autour de la Lune le 20 mai 2018 et mis à poste fin mai au point Lagrange L2, situation lui permettant d'être en liaison avec la Terre et la face cachée de la Lune. C'est le premier posé en douceur sur ce côté de la Lune. Une seule sonde américaine, Ranger 4, s'y était écrasée précédemment. La Chine veut établir sur cette face invisible de la Terre une base lunaire permanente. Je rappelle, l'intérêt est de ne plus être perturbé par toutes les émissions radio qui viennent de la Terre, ce qui permet d'avoir des analyses de l'espace beaucoup plus fines et beaucoup plus précises, sans perturbation. Cet atterrisseur U-2 est la doublure de U-2, qui s'était posé dans la mer des pluies sur la face visible en décembre 2003 avec Change et 3. Chaque module embarque 4 instruments, 2 caméras, un spectromètre et un dosimètre à neutrons pour l'atterrisseur, une caméra, un spectromètre, un radar d'analyse de sol et un instrument permettant d'analyser l'interaction entre le vent solaire et la surface du sol pour le rover. La sonde a mené aussi un petit conteneur abritant de l'oxygène et de l'eau dans lequel étaient installés des œufs de mouche et des levures, ainsi que du sol terrestre dans lequel étaient semés des graines de coton, dans le but d'observer la germination en gravité lunaire. Si la plante a bien germé, elle a gelé peu après. La Chine a l'intention de déposer un rover sur Mars en 2020 pour étudier le sol, l'atmosphère et rechercher des traces d'eau. Un premier test de l'atterrisseur Yuxing 1 a été réalisé le 14 novembre 2019. Et enfin, le Japon, MMX, Martian Moons Explorer, est un projet de l'agence japonaise JAXA, visant à faire déposer vers 2024 sur Phobos, la plus grosse lune de Mars, un atterrisseur qui prélèvera des échantillons et les retournera sur Terre, accompagné d'un petit rover développé en coopération avec l'agence allemande DRL. Maintenant, je vous propose d'écouter un petit peu de musique, Clarica, qui va nous chanter l'astronaute.
Le matin au réveil, j'ai grandi d'un centimètre. Pour ne pas que je rouille quelques abdos à la poutre, je dois boire à la paille la grosse goutte qui dans l'air flotte. Et mon cœur bat, je n'entends que ça, je l'entends. Et mon cœur bat, je l'entends. Je vais lire mes mails, faire un Skype, allô la Terre. Faut sortir, vaille que vaille, laver le panneau solaire. J'enfile ma cotte de maille, je me cale dans mon scaphandre. Et mon cœur bat, je l'entends. Je n'entends que ça, je l'entends. Et mon cœur bat, je l'entends. Dehors, c'est beau, c'est froid, c'est noir et ça brille, je pleure. Chaque fois que j'avale de l'air en pastille, je gère l'appel maternel de la grosse bille. J'ai l'air d'un poussin d'autruche dans sa coquille. Et mon cœur bat, je l'entends, personne. Y'a pas un chat, je n'entends que ça, je l'entends. Je vais rentrer, je crois. D'oiseaux qui volent, un morceau de tôle. Et mon cœur bat, je l'entends, personne. Y'a pas un chat, je n'entends que ça, je l'entends. Je vais rentrer, je crois. je l'entends. Et mon cœur bat, je l'entends. Et mon cœur bat, je l'entends. Et mon cœur bat, je l'entends. Je vais rentrer, je crois.
Après ce tour des explorateurs des planètes de notre système solaire, peut-on voir ce qu'il se passe autour de la Terre ?
Oui, les choses bougent en ce début de troisième millénaire, car les agences spatiales étatiques se trouvent maintenant en compétition avec des concurrents privés. En 2006, le directeur de la NASA, Michael Griffin, a ouvert une compétition à des sociétés privées pour desservir la navette spatiale, anticipant le retrait des navettes US et ne voulant pas que le programme américain dépende exclusivement de lancements réalisés par les Russes. Car la Russie facture 70 millions de dollars un aller-retour avec un Soyouz triplace vers la station spatiale. Cette nouvelle industrie a été baptisée New Space. À tout seigneur, tout honneur, commençons par le plus connu d'entre eux, SpaceX. La société Space Exploration Technology, mieux connue sous le nom de SpaceX, créée par le milliardaire américain Elon Musk, qui s'est enrichi grâce au logiciel PayPal et avec les voitures électriques de Tesla Motor, développe les lanceurs Falcon. Le QG de SpaceX est installé à Hawthorne, en Californie, et SpaceX possède aux USA 5 sites dédiés à la construction et 4 sites pour le lancement. Un au Texas, 2 à Cap Canaveral, en Floride, le pas de tir LC-39A du Kennedy Space Center, duquel étaient partis les fusées Apollo, le SLC-40 de l'armée, Cap Canaveral Air Force Station, et celui de la base militaire de Vandenberg, en Californie. À l'occasion des 50 ans de l'alunissage d'Apollo 11, Elon Musk a déclaré « Apollo 11 fut l'une des choses qui a le plus inspiré l'humanité. Je ne suis pas sûr que SpaceX aurait existé sans Apollo 11. » Son objectif est de diviser par deux le coût d'une mise sur orbite. La mise en orbite d'un kilo est affichée à 2 400 $, à comparer à 45 000 $ du temps de la navette spatiale, ou aux 10 000 $ d'il y a seulement 5 ans. Grâce à une organisation propre à une société privée, qui réalise et gère l'ensemble du programme, de la conception au tir et à la remise en service, le développement de Falcon 9 n'aura coûté que 300 millions de $, soit 10 fois moins que celui d'un lanceur équivalent géré par une société multinationale comme Ariane Espace. Malgré 3 échecs entre 2006 et 2008, le lanceur Falcon 9 est opérationnel depuis 2009. Il est capable de satelliser 23 tonnes en orbite basse, contre 21 tonnes pour Ariane 5 ECA, et 8 tonnes 3 en GTO. La NASA a choisi SpaceX pour des missions de ravitaillement de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Son premier cargo Dragon est lancé le 8 décembre 2010. La capsule Dragon étant revenue se poser sur Terre. La première desserte de l'ISS a eu lieu en 2012. Suite à une nouvelle sélection en 2014 avec 2 autres sociétés américaines pour un programme de vol habité cette fois, les 2 autres sociétés étant Boeing, avec le CTS-100 Starliner et Sierra Nevada Corporation avec sa mini navette Dream Chaser, toutes deux lancées par une lance Atlas V, SpaceX enverra avec une Falcon 9 la capsule Crew Dragon réutilisable vers la Station Spatiale Internationale avec la capacité de transporter 7 astronautes. Le premier des 2 vols de démonstration de la capsule Crew Dragon, initialement programmé en août 2018, a été faite le 2 mars 2019. La capsule était inhabitée, un mannequin nommé Ripley était à bord. La capsule est restée amarrée à l'ISS pendant plusieurs jours, avant de revenir sur Terre le 8 mars, récupérée en mer par les équipes de SpaceX. Le journal Sud-Est a tiré ce jour-là un article « La fierté retrouvée de l'Amérique ». Mais l'amérissage ne s'est pas passé comme prévu, Trois des quatre parachutes destinés à ralentir sa chute ne se sont pas ouverts et la cabine a subi un posé très violent, ce que n'auraient pas du tout apprécié des astronautes s'ils avaient été à bord. Le vol avec à bord deux passagers était prévu pour le 25 juillet 2019, avec une mission qui était un test, avec une mission opérationnelle en septembre 2019. Puis ce premier vol a été repoussé au 15 novembre. Mais cette capsule, DM1, démo, mission démo 1, a été détruite lors de l'essai au sol de ses moteurs, prévu pour l'éjection de la cabine en cas de défaillance de la fusée porteuse. Un nouvel essai au sol des moteurs a eu lieu en décembre 2019 et le tiers-temps attendu, le in-fly abort, abandon en vol, a été réussi le 19 janvier 2020, ouvrant la voie à un vol habité. Entre 2006 et fin 2019, SpaceX avait lancé 5 Falcon 1, avec sur 3 échecs, 78 Falcon 9, avec seulement 3 échecs, et 20 étages récupérés ont été réutilisés avec succès entre 2017 et mars 2019, 16 d'entre eux refaisant 2 autres vols. Et en décembre 2018, SpaceX a fait voler un étage pour la troisième fois. Réutiliser un étage, c'est réduire les coûts, ce qui est tout à fait dans la philosophie de SpaceX pour tenir les prix des lancements annoncés. Du côté de Boeing, les vols de la capsule Starliner étaient prévus en mars 2019 inhabités et en août 2019 habités, et la première mission opérationnelle pour fin novembre. Date qui a été repoussée à 2020, car lors des essais d'évacuation d'urgence de la capsule, le 4 novembre, un des trois parachutes n'a pas fonctionné. Et le premier vol en automatique de la capsule, le 20 décembre, a été un échec. La jonction avec l'ISS, objectif de cette mission, ayant échoué, l'heure enregistrée dans la capsule étant erronée, ce qui a entraîné une mauvaise mise sur orbite. Voyons maintenant la fusée phare de SpaceX, le lanceur Falcon Heavy, Falcon lourd. Il est propulsé par 27 moteurs et est devenu la fusée la plus puissante du marché. Cette version musclée, constituée de l'assemblage de 3 Falcon 9, affiche 1421 tonnes sur la balance au décollage et est capable de placer 63 tonnes sur orbite ou 26 tonnes en orbite de transfert géostationnaire. Ou encore, objectif final, 17 tonnes en orbite martienne. Une partie des étages de Falcon Heavy sont des étages réutilisés après la récupération de lors de tirs précédents de Falcon 9. Le premier vol était initialement prévu pour le 29 décembre 2017. Un test au sol de 10 secondes a eu lieu le 24 janvier 2018 et le premier vol a été effectué le 6 février 2018. Tir parfaitement réussi, Elon Musk s'écriant « Ce truc a décollé !» car lui et ses techniciens craignaient que l'assemblage de ces trois étages ne vibre tellement qu'il aurait pu se détruire au décollage. Puis il a rajouté « Regardez ça, c'est irréel !» 100 000 personnes étaient massées sur le Space Coast pour assister à ce spectacle. La fusée envoyée dans l'espace n'ont pas une charge inerte, comme cela fait pour tous les premiers vols, mais un cabriolet électrique rouge, le propre coupé Tesla d'Elon Musk, autour de Mars. À son bord, un mannequin baptisé Starman, hommage à la chanson de David Bowie, avec sa musique Space Oddity, diffusée par l'autoradio, et sur l'écran du GPS « Don't Panic », en référence à un roman et un film de 2005, « H2G2, le guide du voyageur galactique », dont un exemplaire du livre était dans la boîte à gants. Cette voiture dans l'espace renvoie à un film d'animation de 1981, « Métal hurlant », dans lequel une navette spatiale larguait en vol une Chevrolet Corvette avec à son bord un pilote qui ramenait la voiture sur Terre. Autre commentaire d'Elon Musk. Vous pouvez dire que c'est vrai, parce que ça a l'air tellement faux. Nous aurions fait de bien meilleurs effets spéciaux si c'était faux. Et puis, tout cela est un peu idiot et amusant, mais j'aime les choses stupides et amusantes. 6 heures après le décollage, le dernier étage de la fusée a rallumé son moteur Merlin 1D et emporter sa très originale cargaison autour du Soleil, pour croiser régulièrement les orbites de la Terre, une première fois en juillet 2018, de Mars, qu'elle va frôler, à 7 millions de kilomètres, puis de Vénus. Les images extraordinaires de Starman conduisant une voiture à plus de 40 000 km/h dans l'espace sont la démonstration du génie médiatique d'Elon Musk et de sa maîtrise de la technologie nécessaire à sa réalisation. Le destin de cet engin hors norme s'écraser sur la Terre ou sur Vénus dans une dizaine de millions d'années. Un bémol tout de même pour cette première. SpaceX avait prévu de récupérer les trois modules Falcon 9 constituant le premier étage de sa fusée Falcon Heavy, avec d'une part le retour des deux modules latéraux qui se sont posés ensemble sur le site de retour à 300 mètres l'un de l'autre, 8 minutes après le décollage, à quelques centaines de mètres du pas de tir, offrant des images dignes de Star Wars, puis la récupération du module central sur une barge ancrée au large de la Floride. Mais cette dernière partie s'est terminée par un crash, le module percutant l'eau à 500 km/h à une centaine de mètres de la barge Of Course I Still Love You, par manque de carburant pour la ralentir. Mais cela n'enlève rien à l'exploit, d'autant plus que les deux modules récupérés provenaient de lancement de Falcon 9 précédent. Si deux autres missions étaient prévues pour 2018, l'une civile et l'autre militaire, le calendrier a été revu et repoussé à 2019. Et le premier vol commercial a été effectué le 11 avril 2019, plaçant le satellite de télécommunication Arabsat 6A de 6,4 tonnes sur orbite. Les deux boosters latéraux sont retournés sur Terre ensemble, dans le même balai aérien que précédemment, et l'étage central s'est, lui, tranquillement posé sur la barge Osiris. Mais cet étage central est perdu en mer lors du retour de la barge au port. La mer était trop forte et il a basculé. Pour son troisième vol, Falcon Heavy a placé le 25 juin 2019 24 satellites et CubeSat sur trois orbites à inclinaisons différentes. Les deux étages latéraux étaient des réutilisations et ont été récupérés, mais l'étage central s'est abîmé en mer, à 1250 km du pas de tir. L'un des CubeSat abritait une voile solaire en Millar de 32 mètres carrés développée par la Planetary Society qui a été déployée le 23 juillet. Le but de cette voile est d'être utilisée comme voile poussée par le Soleil d'une façon indéfinie. Autre nouveauté réalisée par SpaceX. Lors du lancement d'un satellite espagnol, le 22 février 2018, SpaceX a procédé à la tentative de récupération d'une demi-coiffe du lanceur Falcon 9 avec un navire automatique tractant un filet. Ce lanceur était déjà une récupération car il avait volé pour un lancement effectué 6 mois plus tôt. Et une coiffe coûte la bagatelle de 6 millions de dollars. Mais la récupération n'a pas pu être menée à bien lors de cette mission. Cette récupération, par contre, sera réussie lors du dernier vol de Falcon Heavy. Elon Musk est un visionnaire. Ses réussites sont incontestables, mais il a un autre dessein, encore plus grand que le simple envoi de fusée vers Mars. Il considère, comme beaucoup de scientifiques, que l'humanité est en train de consommer l'ensemble de ses ressources en épuisant la Terre, et qu'elle vit avec deux épées de Damoclès sur sa Terre. Le réchauffement climatique, qui va chasser des milliards d'individus de chez eux, et le risque de pandémie d'un virus incontrôlable. Sur ce sujet, nous sommes en pleine actualité avec le coronavirus qui vient de Chine. Pour Elon Musk, il n'y aura pas d'autre solution, au milieu de ce siècle, que d'aller coloniser une autre planète, Mars en l'occurrence. Sa future fusée pourrait transporter des colons dans le but d'y établir une base de 80 000 personnes. Autre menace pour l'humanité, les pénuries de ressources. Le WWF, le World Wide Fund, calcule le jour où le monde a dépassé ce que la planète peut produire en un an. En 2018, c'était le 2 août. Et si toutes les nations avaient le même niveau de vie que la France, ce jour serait le 5 mai. Il y a quand même un autre point à préciser. SpaceX n'a pas tout réinventé. Le moteur de son lanceur Falcon est basé sur des travaux réalisés par la NASA.
It's the Earth. The Earth is my body. My head is in the stars. Who said that?
I don't know.
Versement un peu. On userait de pleines amphores.
Dans la 17e émission, le mercredi 18 mars, je vous parlerai des autres acteurs du New Space et des retombées au quotidien des techniques développées pour la conquête spatiale. Merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans un mois à la même heure. Si vous avez des questions relatives au contenu de cette émission, vous pouvez les envoyer à Espace Horizon Inaccessible sur le compte Facebook de Fréquence Mistral. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et vous y trouverez aussi toutes les références des ouvrages qui m'ont permis de préparer cette émission, ainsi que les précédentes. Cette émission sera rediffusée le jeudi 27 février à 11h et sera disponible sur le site de la radio fréquencemistral.com. Merci à James pour la technique et à François et son équipe pour leur accueil. Je vous souhaite une très belle fin de journée.